les enfants de Chronos.
Alors Philippe Papet, je reprends ma petite intervention sur les rapports entre l'Église et ses adversaires entre 1870 et 1914. Nous en étions restés donc à la laïcisation importante entre 1870 et 1886. Alors, cette laïcisation concerne bien sûr l'école, je l'ai dit. Elle concerne aussi l'armée. L'armée en ce sens que maintenant les séminaristes ne sont plus exempts. Ils sont forcés de faire leur service militaire. Le plus souvent dans une unité bien sûr non combattante. Ils sont brancardiers, ils sont vaguemestres, ils sont dans l'intendance. Laïcisation également des tribunaux, puisqu'on retire tous les symboles religieux dans les tribunaux, dans tous les édifices publics. Enfin, je vous le rappelle, il y a eu des expulsions massives de congrégations dont on ne souhaite plus la présence en France, au premier rang desquelles les jésuites, qui symbolisent pour les anticléricaux la puissance avérée de l'Église. Alors cette laïcisation va durer de 1876 à 1889, disons, avec la loi qui supprime l'exemption pour les séminaristes. Et donc l'essentiel de la laïcisation est faite en 1890. Alors, l'Église catholique, finalement, en 1890, se rendant compte qu'elle n'a pas les moyens de résister à cette vague de laïcisation, va suivre les préceptes du pape Léon XIII et va s'essayer de composer avec ses adversaires républicains. C'est ce qu'on appelle la politique du ralliement. Le pape Léon XIII conseille aux catholiques français un accommodement raisonnable avec la République dans la mesure où il n'y a pas les moyens politiques de faire autrement. Et celui qui va symboliser localement cette politique de ralliement, d'accommodement raisonnable, c'est le nouvel évêque de Beauvais, qui arrive en 1893, Monseigneur Fuset, qui se trouve être un évêque républicain, et qui va donc demander aux curés, aux desservants, d'être le plus conciliant possible avec leurs adversaires, de ne pas prêter à critique, de ne pas faire de politique, de ne pas faire d'homélie trop partisane. Alors je cite le message inaugural de Monseigneur Fuset en 1893 qui est assez intéressant. Nous avons vu le prêtre du Valois ne trouvant que la solitude dans son ministère, le vide dans son église, l'indifférence le long des chemins. Nous voyons le prêtre ne réunissant au pied de l'autel que quelques femmes et quelques enfants, ne rencontrant dans la foule que le dédain ou la haine. Nous voulons que cela change et nous souhaitons voir le curé du village doux, humble, charitable, empruntant à la vie champêtre les ornements de son simple discours, s'asseyant au foyer des paysans, s'intéressant à leurs travaux. Nous souhaitons voir le curé de nos villes tendre aux déshérités une main secourable, se mêlant au peuple, s'associant à ses justes revendications. Donc vous voyez que le ton là est à la conciliation. Plus question pour les prêtres de relayer les idées les plus conservatrices, voire royalistes, dans le pays. Cette politique de ralliement est finalement intéressante aussi pour les républicains au pouvoir. Alors pourquoi ? Parce que les républicains au pouvoir ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des républicains modérés. Ils sont laïcs, certes, ils sont républicains, certes, mais ils ne sont pas partisans de réformes sociales trop importantes. Alors du coup, comme ils sentent qu'ils ont à leur gauche la montée d'un parti radical puissant, revendicatif, et d'un mouvement socialiste qui émerge, ils pensent, avec cette Église accommodante, trouver une plus large audience politique et conforter leur présence au gouvernement. Il vaut mieux pour les modérés comme Ferry, comme Grévy, comme Jules Simon, plutôt. Donc, il vaut mieux composer avec leurs anciens adversaires catholiques, d'autant plus que le programme de laïcisation est achevé. Je vous l'ai dit, dans l'armée, dans la magistrature, dans le corps préfectoral. J'ai oublié de dire aussi, dans la laïcisation, la légalisation du divorce en 1884. Voilà. Alors, évidemment, le fait qu'il y ait un certain ralentissement des tensions, le fait qu'il y ait eu réalisation du programme de laïcisation, fait qu'il va y avoir, disons, jusqu'en 1899-1900, certaines périodes de calme dans les relations entre les catholiques et leurs adversaires. Calme ne veut pas dire non plus cessation de toutes les hostilités. Les radicaux sont toujours là et ils sont puissants dans le Valois. Ce qui fait qu'on trouve toujours des contestations contre les prêtres, des plaintes contre les desservants. J'en prends quelques-unes dans la période qui nous intéresse, donc 1890-1899. L'abbé Boudin, de Nogent les Vierges est critiqué parce qu'il vient apporter la contradiction dans les réunions de la gauche locale. Il s'impose dans les réunions politiques pour dire ce qu'il pense de ses adversaires. Le curé d'Apremont, l'abbé Closier, est critiqué par la mairie de ce village pour propagande réactionnaire. En plus, il fait venir des moines, des rédemptoristes, pour prêcher des missions à Apremont. Il y a aussi, à Lévignan, des contestations. Le curé est contesté parce que lui aussi fait venir des rédemptoristes pour lancer des missions. Et ce rédemptoriste a parfois des propos assez incisifs. Par exemple, dans une quête qui était faite pour la rénovation d'un hôtel de l'église Saint-Aubin, le rédemptoriste, le père Lefebvre, dit à ceux qui hésitaient à donner leur obol pour la quête, « Ceux qui ne donnent pas, il pourrait leur arriver malheur, ils auraient des pertes dans leur famille, ils perdraient des animaux. » Donc évidemment, ça quand ça a été entendu par des habitants de Lévignan, ça a été bien sûr attentivement noté et reporté bien sûr en haut lieu. Alors à chaque fois, Mgr Fuset déplace le desservant. Dès l'instant où il y a un litige, dès l'instant où il y a un doute sur la conduite qui devrait être exemplaire d'un prêtre, alors pour souvent le punir, parce que c'est souvent des punitions dans la mesure où il y avait ses marques dans sa paroisse, le prêtre est émuté. Même chose, par exemple, pour l'abbé Ledru, donc, qui est déplacé. Cela dit, entre 1890 et 1899, donc, ce n'est plus tellement les rapports entre l'Église et ses adversaires qui occupent la première place politique dans le pays. Il y a d'autres éléments de friction, si l'on peut dire. Il y a l'affaire de Panama. Il y a l'affaire Dreyfus, qui commence donc réellement en 1894. Il y a les tensions franco-anglaises, avec l'affaire de Fashoda, où on a failli faire la guerre en Angleterre. Ces affaires-là donc mobilisent les journalistes, l'opinion publique, ce qui fait que, évidemment, on se désintéresse un petit peu des rapports avec l'Église, d'autant, je vous le rappelle, que le programme de laïcisation a été fait. Ça ne change pas non plus les dispositions politiques dans la région, puisque les radicaux et les républicains l'emportent systématiquement. Gustave Chopinet devient député en 1898, l'emportant nettement dans tous les cantons du Valois, à Bé, à Crépy, à Nanteuil, à Senlis, même si dans le Valois, certaines communes lui restent défavorables, je les cite, Bouillancy, Trumilly, Versigny. Donc Chopinet est élu député pour la première fois en 1898. Grand changement, 1898, justement, l'affaire Dreyfus. Alors l'affaire Dreyfus va avoir un rapport direct avec le changement des rapports entre l'Église et les gouvernements. Pourquoi ? Eh bien, il y avait eu des élections en 1898 et les modérés l'avaient encore emporté. Ce qui fait qu'on avait en fait trois blocs. La droite conservatrice, très peu présente en Picardie. La gauche radicale, donc des anticléricaux importants, avec un petit complément de socialistes. Et ce centre républicain modéré, qui était au pouvoir depuis 1876. Donc de 1876 à 1898... On a une continuité de ces gouvernements de centre, hein, modéré et républicain. Arrive l'affaire Dreyfus. Et là, l'affaire Dreyfus fait sauter cette triangulation politique, puisqu'on se détermine par rapport à l'affaire. On est soit Dreyfusard, soit anti-Dreyfusard. Et donc le centre éclate. Le centre anti-Dreyfusard va se rapprocher de la droite, et le centre Dreyfusard, favorable à la cause de Dreyfus, va se rapprocher de la gauche. Du coup, comme il y a plus de centristes modérés qui se rapprochent de la gauche, c'est la gauche qui va prendre le pouvoir. Sans qu'il y ait d'élection, si vous voulez. En 1899, la gauche prend le pouvoir par un reclassement des modérés qui étaient à l'époque aux affaires. Alors le Parti radical prend le pouvoir en 1899. Et là, ça change tout, parce qu'on va passer de la laïcisation à l'anticléricalisme. Il ne s'agit pas simplement de débarrasser l'État des influences religieuses, il s'agira d'extirper de la nation toute réalité catholique, en fait. Alors, il va y avoir donc toute une série de lois anticléricales, pour le coup, à partir de 1899. Le premier président du Conseil qui va être installé, c'est Waldeck Rousseau, un Nantais protestant. Mais le grand artisan de cette ligne anticléricale, ce sera Émile Combes, qui sera président du Conseil, donc, de 1902 à 1905. Alors, quelles sont les lois qui sont prises dans ce mouvement nouveau qui va durer de 1899 jusqu'en 1910, en gros, vraiment des lois extrêmement anticléricales. Alors la première est très connue, vous la connaissez tous ou toutes, c'est la loi sur les associations, dite loi de 1901. Alors cette loi sur les associations paraît être une loi de liberté, effectivement, puisqu'elle dit en gros que toute association est légale, pourvu qu'elle soit déclarée en préfecture, qu'elle ait un bureau dûment constitué et qu'elle ait une assemblée générale annuelle. Donc cette loi de liberté, bon, elle ne pose pas de problème, si elle en pose un pour l'Église, parce qu'elle exclut les congrégations du droit commun. Les congrégations ne sont pas considérées comme des associations comme les autres. Elles et elles seules doivent, pour avoir une existence légale, être autorisées en gouvernement. Ce qui fait que cette loi de liberté est en fait une loi discriminante, c'est une loi d'exception. Et bien sûr, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'elles solliciteront l'autorisation, elles seront toutes retoquées, et ces congrégations. Et ça va ouvrir en fait la période de l'anticléricalisme militant total jusqu'en 1910. Que peut faire le nouvel évêque, Mgr Douai ? Ben, il ne peut pas faire grand-chose, bien sûr, puisqu'il est en minorité politique et que là, l'État est maintenant résolument anticlérical. Alors c'est toujours les mêmes mesures de résistance, si l'on peut dire. Multiplication des visites pastorales, plusieurs mandements appelant à la cohésion des catholiques, encouragement à toute initiative visant à rassembler les catholiques dans les paroisses, les veillées, les pèlerinages, notamment les pèlerinages proches, à Mont-Lognon, à Montmis, près de Beauvais, à Liès, dans l'Aisne. Il y a des conférences aussi. Il y a les parutions du bulletin paroissiaux. Ça, c'est une nouveauté après 1900. On essaye de faire des bulletins paroissiaux qui rassemblent les catholiques de la paroisse et qui donnent des arguments pour se faire entendre. À Baron en 1900, à Lévignan en 1901, à Plailly en 1900. Et il y a aussi des neuvaines, c'est-à-dire on envoie des prêtres faire des missions dans les villages. Sur 9 jours, il y a des conférences et des veillées.